Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense.
Nous sommes en guerre.
Le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade.
Nous sommes en guerre.
Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
Nous sommes en guerre.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays. C'est pour la magie.
Nous sommes en guerre.
Vous êtes contrôlé combien de fois par mois?
Par jour. Moi,
par jour?
Minimum 4 fois par jour.
Et vous faites quoi?
Je vends la drogue.
Nous sommes en guerre.
Nous dérangeons les trafiquants.
How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Il sera examiné demain dans l'hémicycle à 15h avec un délai de dépôt d'amendement de la séance qui a été fixé à 13h. Je vous remercie.
Eh oui. Non, nous ne sommes pas à Sud Radio. Là, nous sommes au Sénat. Oui. Au Sénat, où la commission mixte paritaire, Sénat, Assemblée nationale, vient de décider de ne rien décider. Échec. On va en parler, mais à propos de quoi, cet échec? Eh bien, de ce fameux pass sanitaire. Vous vous rappelez, le pass sanitaire, ça devait arrêter, ça devait disparaître le 15 novembre. Et ensuite, le gouvernement a dit « Ah non, on va continuer, écoutez, c'est bien, le pass sanitaire, ça convient à tout le monde est content. Donc, on va continuer, merci Véran, merci à Gabriel. Nous allons continuer jusqu'en juillet 2022. » Juillet 2022, mais pourquoi juillet 2022? Ah, c'est vrai qu'il y a des élections présidentielles en avril. Ah bon? Bah écoutez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Et qu'est-ce qui va se passer? On va en parler avec la sénatrice Véronique Jacqueline, pardon, Eustache-Brignot. Nous allons ensuite parler, alors, à la COP26. Ils sont venus, ils sont tous là, en jet, partout, même Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, elle est venue, elle a fait 50 kilomètres en jet, et oui! Voilà ce que c'est que de combattre la pollution et le CO2, c'est pas beau ça! Et puis nous allons recevoir Frédéric Bizard. Frédéric Bizard a fait un livre remarquable, peut-être une porte de sortie dans le marasme sous Covid-19. Comment on en sort dans ce système de santé que le monde nous enviait, mais qui ne nous envie plus du tout, l'autonomie solidaire en santé.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
En commission mixte paritaire, hier, députés et sénateurs ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de loi vigilance sanitaire. Vous savez, ce projet de loi que nous connaissons et que nous subissons depuis déjà pas mal de temps. Eh bien, l'Assemblée avait profondément modifié le texte, la Haute Assemblée, le Sénat, ramenant la possibilité du recours au pass sanitaire jusqu'au 28 février contre le 31 juillet, date voulue par le gouvernement. Et puis, patatras, ça n'a pas marché. Échec. Qu'est-ce qui s'est passé? On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
J'ai pas de pass sanitaire, je tourne en rond dans l'habitacle. Pas de vaccin, je reste confiné. J'ai pas de pass sanitaire, je tourne en rond dans l'habitacle. Pas de vaccin, je reste confiné.
Eh oui, c'est Cyclope l'héritier, j'ai pas de passe sanitaire, ben je tourne, voilà, je suis confiné, moi, etc. Effectivement, c'est comme ça. On peut être pour, on peut être contre, c'est pas le sujet, là, c'est simplement que, voilà, si vous avez pas le passe sanitaire, comme on sait, interdiction, théâtre, cinéma, restaurant, etc., etc., mais pas métro, mais pas bus, mais pas autre chose. Jacqueline Eustache-Brignot, bonjour.
Bonjour,
vous êtes sénatrice LR du Val-d'Oise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on s'attendait, effectivement, on sait ce qui se passait au Sénat, une majorité n'a pas été pour, effectivement, la date limite du 15 novembre, mais vous étiez, effectivement, pour le 28 février, et voilà-t-il pas que la discussion achoppe, et pourquoi?
D'abord, la discussion elle a échappé, comme vous l'avez dit, surtout quasiment. Ouais. C'est-à-dire que le gouvernement, dans ce nouveau texte dit vigilance sanitaire, voulait une espèce de carte blanche jusqu'au mois de juillet, alors on y reviendra la date, mais voulait aussi avoir les mains libres pour gérer cette crise sanitaire qui n'est plus, nous ne sommes plus dans le même contexte qu'il y a un an, nous ne sommes plus non plus dans le même contexte du mois de juillet. Et donc, quand le texte initial de l'Assemblée est arrivé au Sénat, Philippe Bas, qui était rapporteur de ce texte, a évidemment énormément travaillé en réfléchissant sur quelle était la situation aujourd'hui par rapport à la situation des textes que nous avons votés depuis un peu plus d'un an.
C'est ça.
Et le gouvernement, parce que c'était son attitude de marcher sur la démocratie, hein, de ne pas tenir compte que le Sénat, l'Assemblée et le Sénat en particulier sont là aussi pour contrôler le gouvernement, mais on a un président qui a du mal avec les institutions telles que en particulier le Sénat, et nous avons écrit, proposer des choses qui étaient du bon sens par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans la même situation que ne serait-ce qu'au mois de juillet. Pourquoi ? Parce que les gens se sont beaucoup, beaucoup vaccinés, que le pass sanitaire dans certains départements pourrait être pratiquement supprimé, parce que c'est ce que nous souhaitions, territorialiser ce pass, parce qu'évidemment, on ne peut pas le supprimer, parce que avons la difficulté des tom-toms. Et donc, mais sauf que le gouvernement, lui, veut une carte blanche comme si le Parlement n'existait pas et comme s'il savait tout faire tout seul. Donc c'est vraiment une espèce de déni de démocratie aujourd'hui que le gouvernement nous montre. Voilà. Donc ça fait des mois que nous luttons au Sénat et que nous expliquons en particulier à la majorité qu'il y a quand même des institutions, il y a quand même aujourd'hui des choses dont on doit tenir compte. Donc effectivement, nous avions proposé de ramener le 28 février. Alors, le gouvernement, vous l'avez remarqué, veut les cartes blanches au mois de juillet, prétextant qu'en mars, avril, mai, il y a effectivement une suspension parlementaire parce que la loi nous oblige à avoir des suspensions, une suspension parlementaire compte tenu des élections présidentielles et des élections législatives. Or, nous travaillons. On continue à travailler et le Parlement peut être convoqué en une semaine pour relégiférer sur un certain nombre de choses. Donc ça, c'est absolument la mauvaise explication. Et puis, il marche. Le gouvernement a déjà anticipé le résultat présidentiel en disant qu'il serait là au mois de juillet. Moi, j'espère pas. Profondément, je ne l'espère pas. Mais c'est aussi ça
qu'il a écrit. Au fond, Jacqueline de Stache-Brignot, on ne le dit pas. Mais le Parlement, franchement, il existe encore. Non, mais sincèrement, exécutif, législatif, judiciaire, un certain Montesquieu, rappelez ça, c'est vieux tout ça, c'est le monde d'avant. Mais franchement, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut, le gouvernement. Il fait totalement
le gouvernement, mais de toute façon, le président Macron a eu du mal avec toutes les strates de l'organisation de ce pays. Il a négligé les maires en disant qu'ils ne servaient à rien, en gros. Il a négligé les départements, les régions, et y compris aussi le Parlement, qui est là pour contrôler le gouvernement. Dans la Constitution, les choses, elles sont claires. Sauf qu'il a beaucoup de mal avec ça, le président. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Il pense tout faire bien tout seul. Je pense qu'il a tout raté tout seul. Mais j'espère que les Français le comprendront.
Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, après cet échec? Est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre ou non? Eh bien, écoutez, voilà, ça va être jusqu'en juillet, ça y est, le pass sanitaire est là.
Le texte va passer cet après-midi à l'Assemblée nationale, il retourne à l'Assemblée nationale.
Oui, mais on connaît le résultat.
Ils vont probablement repartir sur le texte initial, y compris, ce qui est aussi très inquiétant, sur le contrôle sanitaire dans les écoles, parce que nous, on l'a supprimé au Sénat, ça. Vous savez, ce contrôle par les éducatives administratives du parcours vaccinal et du parcours des tests des enfants, ce qui est un pur scandale.
Pas je rappelle à nos auditeurs, Jacqueline Stache-Brignot, que vous avez obtenu de l'amendement du Sénat, demandé à ce que les directeurs d'école n'aient pas accès au statut de vaccination des élèves, c'est ça.
On a supprimé ça au Sénat, on l'a supprimé.
D'accord.
Parce que d'abord, c'est du bon sens, et que on ne peut pas lever comme ça le chevret médical à la faveur d'un amendement arrivé un soir à l'Assemblée, ce qui prouve aussi la manière dont ils travaillent à l'Assemblée. Donc ça, et puis voilà, il n'y a pas eu de concertation, les enseignants sont vent debout contre cet amendement, donc nous, on l'a supprimé. On est quasiment certains qu'ils vont le remettre, donc ça va poser de graves problèmes dans certains établissements. Les parents sont aussi vent debout contre cet amendement, mais en fait, on a un exécutif qui n'écoute personne parce qu'il pense détenir la vérité en permanence. Et ça, c'est juste insupportable. Et j'espère que les Français comprennent la manière dont ce gouvernement travaille en marchant sur toutes ces institutions qui protègent la démocratie dans notre pays, qui protègent la démocratie, mais qui veut carte blanche pour faire ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Aujourd'hui, ce gouvernement ne veut pas admettre que la situation sanitaire n'est plus la même il y a un an, n'est plus la même que le mois de juillet. Le pass sanitaire a obligé des gens à vacciner.
Mais madame la sénatrice, il le sait comme vous, ça. Il le sait, ça. Et alors, pourquoi il ne le fait pas Est-ce qu'il n'y a pas, je pose la question comme ça, naïvement, n'y aurait-il pas quelques raisons politiques? Je pose la question.
Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des raisons politiques. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macron pense qu'il va être réélu parce que le contexte soi-disant lui est favorable. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce président, si on est intelligent, va pouvoir faire en sorte que la France connaisse en autre chose que ce président qui a fracturé le pays comme aucun président ne l'a fait. Et j'espère. Alors évidemment, il y a des c'est donnez-moi carte blanche, je sais faire et je vais jusqu'au bout et je repasse pas par ces institutions qui sont là pour contrôler. C'est comme ça depuis des mois.
Oui,
et il faut que les Français s'en rendent compte. Il faut que les Français s'en rendent compte.
Écoutez, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, parce que je connais le bien et je connais le bien mieux que vous. C'est toujours intéressant. Oui, je ne sais pas si ça s'appelle encore la démocratie la plus libérale des trois pouvoirs. C'est une vraie question. Hein. Vous êtes d'accord?
Franchement, quand on est à l'intérieur et quand on va fonctionner ce gouvernement, la démocratie me paraît en danger, sincèrement. Et on a un président qui sait tout, qui fait tout, une armée de députés à l'Assemblée nationale entre nous qui sert à rien, sincèrement, qui commence à se poser des questions parce que dans 6 mois, ils vont être face à leurs électeurs dans les circonscriptions. Et quand ils vont avoir des comptes à rendre sur ce quinquennat et sur le travail qu'ils ont fait concrètement pour les habitants qui les ont élus, ça ne va pas être facile pour eux.
Ça va être intéressant. Est-ce qu'il y a un recours au Conseil constitutionnel ou il n'y a aucun recours dans une institution?
Sur ce texte, on va regarder comment le texte nous revient de l'Assemblée.
Oui.
Nous, je pense que Philippe Bas va proposer une question préalable pour rejeter ce texte. Il n'y a aucune raison qu'on accepte le texte tel qu'il va nous revenir. Mais il faudra qu'on regarde précisément, point par point, comment on peut saisir le Conseil constitutionnel. Vous savez, nous, le groupe présidé par Bruno Retailleau aussi, n'hésite pas à saisir le Conseil constitutionnel. On n'hésitera pas à le faire, peut-être en particulier sur le lever du secret médical dans les écoles. Il faudra qu'on regarde ça très précisément.
Est-ce qu'à votre avis, cet amendement-là va être approuvé par l'Assemblée?
Oui, je pense qu'ils vont supprimer cet amendement de suppression que nous avions proposé et voté au Sénat. Oui, je pense qu'ils vont le remettre.
Ça témoigne. Est-ce que juste une dernière question quand même à la sénatrice que vous êtes, à la femme politique que vous êtes, est-ce que franchement, arrêter de corréler les élections présidentielles et les élections législatives n'est pas quelque chose de très important? Cette espèce de corrélation qui a été instituée, est-ce qu'elle n'est pas nocive, franchement?
Bien sûr qu'elle l'est. Bien sûr qu'elle l'est. Elle l'est. Et c'est, quand on est passé du septennat au quinquennat et qu'on a effectivement corrélé ces deux, effectivement, c'est une vraie difficulté, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir qui peut s'instituer au milieu d'un mandat. Donc ça, c'est évident que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et ça a beaucoup perturbé les lignes et beaucoup perturbé la démocratie, et le contrôle du pouvoir. Effectivement, ça, mais clairement, oui.
Oui, c'est vrai. Il faudrait arrêter, vous savez, ce proverbe que vous connaissez, qui est un faux proverbe mais magnifique, qui dit « la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours ». Il faudrait peut-être arrêter ça.
Il faudrait. En tout cas, nous ici, on résiste. Et nous résistons.
Continuez. Merci,
Jacqueline Eustache-Brignaud. Je rappelle que vous êtes sénatrice LR du Val-d'Oise. Et vous aussi, vous pouvez résister en nous appelant au 0826 300 300. Frédéric Bizard, économiste spécialisé en santé, puisqu'on parle évidemment du projet de loi vigilance sanitaire, reste avec nous jusqu'à 14h. Vous pouvez réagir à ce sujet du pass sanitaire qui pourrait rester jusqu'en juillet.
Ici Sud Radio. Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Ah, nous recevons Angela Merkel aujourd'hui et nous sommes très heureux de la recevoir à l'Hospice des Bonnes. L'Hospice des Bonnes, très très bon vin, on sait ça. Mais en attendant, on va recevoir et on va écouter l'amie de Angela Merkel, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Attention, vous allez écouter, c'est passionnant.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte.
Hypocrite, hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, au nom de la République française.
ce sont des tartuffes. Ils défendent les femmes.
Ah, tartuffes, c'est Khaled Frick. Très bon, Khaled Frick, hypocrite. Mais là, il ne s'agit pas du tout de Mélenchon, il s'agit encore une fois d'Ursula. Et écoutez ce que nous dit Ursula, c'est très important. La COP 26 à Glasgow, la COP 26. Il n'y a pas que Greta Thunberg qui dit « How dare you, how dare you ». Je vais essayer de prendre l'accent allemand, je le prends mal, mais voilà ce qu'elle dit. C'est le moment d'écrire l'histoire. Limitons le réchauffement climatique à 1,5 degré. Schnell ! L'Europe ne ménagera aucun effort pour devenir premier continent climatiquement neutre. Schnell, à cette COP26, nous devons accélérer pour atteindre la neutralité carbone. Coûte. Mais alors, on ne comprend pas. La présidente de la Commission européenne a affrété un jet privé pour effectuer 50 kilomètres. Oui, absolument. C'est le journal Le Télégraphe qui le dit, c'est un journal tout à fait sérieux, voilà. Elle aurait également effectué 18 de ses 34 voyages officiels par avion, même pour des petites distances. Quant à Joe Biden, l'admirable Joe Biden, le formidable, le plus lucide des présidents américains, il est arrivé avec un cortège de 85 voitures. Mais oui, pour battre le CO2, pour combattre la pollution, bah, il faut au moins 85 voitures pour son bilan carbone, quoi. C'est très, très, très important, c'est magnifique. Alors, vous croyez que ça s'arrête là, mais pas du tout. Ça va beaucoup plus loin. 400 avions, je vous signale, sont arrivés de Glasgow. 400 jets privés. Tous les chefs d'État sont arrivés de partout. Ils sont arrivés 400 jets privés, 10 fois plus polluants que les gros porteurs. Il faut savoir que les jets privés, c'est quand même beaucoup plus polluant que les gros porteurs. Provoquant un rejet de 13 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, on organise donc le COP26 et on arrive en provoquant un rejet de 13 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et oui, c'est comme ça, quoi. Mais vous savez, c'est l'homéopathie. Il faut combattre le mal par le mal. Vous voulez combattre le CO2? Eh bien, injectez du CO2. Allez-y sur le carbone. C'est formidable. C'est pas beau, ça, le fait ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. En attendant, oui, le climat, on ne ménagera aucun effort. Avec nos avions, avec nos voitures, avec tout cela, qu'est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce qu'ils sont bons, nos dirigeants? Qu'est-ce qu'on les aime? Qu'est-ce qu'ils sont cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font?
Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour.
Alors écoutez, où sont les femmes? Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, vous savez très très bien. On est cis, on est trans, on est non-genre, on est binaire, on est cis-binaire, on est tribinaire, on est tout maintenant, on est tout. Et oui, c'est le monde, quoi. Il faut avancer, il faut être moderne, il faut être dans l'actualité. Mais alors, je vais dans le métro parisien. Je ne sais pas, auditeur du Sud Radio, mais quand vous passerez à Paris, allez voir, vous verrez une affiche extraordinaire. Une affiche qui est dans le métro parisien, donc vue au sud de tout le monde, voilà. C'est une affiche où on voit quelqu'un, on voit une espèce de... Voilà, qui a lui un slip, un ventre. Et c'est écrit, texto, sous-vêtements menstruels pour tous, toutes. Tous, T-E-U-S. Voilà, c'est Moods qui fait ça. Moods, les culottes, boxers et maillots menstruels, j'allais dire hebdomadaire. Non, c'est pas hebdomadaire, c'est menstruel. Hyper confortable, dispo du 32 au 52 et 100% good vibes, bonne vibration. Alors écoutez, c'est très simple. Alors l'affiche est comme ça, donc on voit une silhouette d'homme, enfin un torse d'homme, et puis le slip, torse de femme couvert et le slip, et on dit ceci, hein, c'est dans les affiches du métro parisien. Je ne sais pas s'il est ailleurs dans vos villes, mais dites-le nous, on ne va quand même pas parler de règles ici, hein, c'est le slogan. Comment on va vous dire que ça concerne aussi bien que les hommes que les femmes alors? Donc on ne va pas parler de règles ici. Ben bien sûr, mais ça concerne tout le monde, ben bien sûr. Tous les hommes, vous le savez très bien, vous êtes concernés, vous avez des règles. Ben oui, chaque mois. Quoi, vous n'avez pas de règles? Vous êtes transphobe, je tiens à le vous dire, vous êtes un racisme exacerbé. Oui, les hommes peuvent avoir des règles, voilà. Sinon, vous êtes transphobe. Voilà, on en est, c'est Moods, hein, je tiens à signaler, c'est très intéressant pour l'histoire, voilà. Menstruel pour tous et toutes, et les règles pour tous et toutes. Ce que j'appelle des règles, et combien on sera à faire l'exception, je ne sais pas. Voilà, intéressant, ça avance.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une paire. liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
Alors oui, la liberté, la merveilleuse chanson de Georges Moustaki. Mais alors, c'est intéressant, hein, comment on parle de liberté et comment on utilise le mot liberté quand elle vient à mot valise, qui fait le trottoir un peu partout et pour n'importe quelle cause. Eh bien, c'est une campagne de communication du Conseil de l'Europe, du très officiel de Conseil de l'Europe. Elle l'a retiré hier soir, mais attention, très intéressant. Voilà ce qu'ils disent, donc. « Beauty is in diversity as freedom is in hijab ». C'est-à-dire la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab. Voilà, adresse aux Iraniennes, adresse à tous les gens qui veulent. Effectivement, chacun peut avoir sa liberté de mettre ou de ne pas mettre le voile. Mais quand on dit que la liberté est dans le hijab, et que c'est sponsorisé, cette campagne de communication, par le Conseil de l'Europe et qui est cofinancée par l'Union européenne, et alors, ils arrivent à quel point le monde sera ennuyeux si tout le monde se ressemblait. C'est vrai, c'est tellement bien. Mais en fait, pourquoi vous arrêtez au hijab, cher Conseil de l'Europe, et de savoir qui subventionne, qui effectivement sponsorise? Mais non, il faut la burqa. La liberté est dans la burqa. Vous vous arrêtez, vous êtes timide, vous êtes pleutre. Non, non, la liberté, c'est la burqa, et la burqa est la liberté. On sent encore que le Conseil de l'Europe se retient. Non, non, la liberté, elle est là, elle est magnifique. Formidable. Bien sûr que les femmes sont libres de porter le hijab, c'est une chose. Mais dire que la liberté est dans le hijab, comme dit d'ailleurs la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, c'est autre chose. C'est le rôle du Conseil de l'Europe, c'est quand même formidable. Et même François-Xavier Bellamy le dit, la liberté est dans le hijab. Ce message n'est pas diffusé par une organisation islamique, mais par le Conseil de l'Europe. Un symptôme parmi d'autres, une dérive très grave qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, où se mêlent entrisme, complaisance et détournement, ce que dit François-Xavier Bellamy. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Freedom is in hijab. Ah bon ? Et freedom est dans quoi ? C'est quoi ce Conseil de l'Europe ? Qui c'est le Conseil de l'Europe ? Eh bien, je vais vous dire quand même, auditeur du Radio, que vous sachiez. Donc, cette propagande qui vante le hijab comme outil et instrument de liberté, eh bien, c'est le Conseil de l'Europe qui siège à Strasbourg, 1800 administratifs, budget 200 millions d'euros, hein, que nous payons, bien sûr, œuvrant à quoi ? Œuvrant à quoi ? Œuvrant à cette conception de la liberté. C'est ça la liberté en Europe, c'est de dire que la liberté est dans le hijab. Enfin écoutez, c'est quoi ça? On va se renseigner vraiment. Eh bien, on va être dans le, peut-être, Strasbourg-Sit ou Bruxit. Mais enfin, c'est un Conseil de l'Europe ou simplement un concile de l'Europe?
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Aujourd'hui,
vous connaissez évidemment, évidemment, Coluche, les Restos du Cœur, depuis 86, toujours, 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 toujours effectivement, hélas, hélas, en action, et heureusement que paix à son âme, Coluche, et vive le souvenir de Coluche, et la fin, malheureusement, elle est toujours là, et on sait qu'on se bat. Et il y a eu quelqu'un qui a fait une chose formidable, je dois dire bravo à lui, c'est à Elon Musk. Elon Musk, eh bien écoutez, vous savez combien est le programme d'aide alimentaire de l'ONU ? En ce moment, par an, c'est 8,3 milliards de dollars. C'est le programme de l'aide alimentaire de l'ONU. Hein. Alors Elon Musk a dit quelque chose très 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 simple. Il a dit voilà, il a demandé à l'ONU de faire preuve de transparence sur le financement de financement de ses activités. Il dit si vous me donnez la preuve, la transparence, que pour la fin de le monde, ces 8 milliards, et c'est plus de 8 milliards de dollars, sont vraiment distribués et distribués où il faut, à qui il faut, et ne se perdent pas dans quelques circuits plus ou moins opaques et quelques poches plus ou moins profondes, eh bien je m'engage, dit Elon Musk, à donner 6 milliards. 6 milliards, il vend des actions de Tesla et il donne 6 milliards de dollars, Elon Musk. Écoutez, pour le moment, c'est intéressant. On ne lui a pas répondu. Il a dit, moi, c'est extrêmement simple. Il a fait un tweet là-dessus. Il dit, si vous pensez que ça peut se le faire, moi, je le fais immédiatement. Voilà, il attend, et on attend d'ailleurs, la réponse de l'organisation, effectivement, l'action contre la faim. Je dis bien pour l'ONU, hein, je ne parle pas des ONG, soyons absolument clairs. Voilà. Franchement, il faut savoir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Plus de 8 milliards de dollars. Elon Musk est prêt à donner 6 milliards. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour être transparent? Qu'est-ce que vous attendez pour dire où va exactement cet argent? S'il va partout, eh bien, dites-le. Au contraire, c'est tout à votre honneur. Sinon, un problème.
Écoutez, il y a quelqu'un qui a un vaste projet qui n'est pas forcément celui de régler la faim dans le monde, mais qui est de sauver notre système de santé. C'est Frédéric Bizarre et on en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
L'autonomie solidaire en santé. Bien écoutez, c'est la seule réforme possible pour Frédéric Bizarre que nous recevons tout de suite. Économie spécialisée en santé qui publie ce livre aux éditions Michelon et qui est déjà en librairie.
Alors effectivement, autonomie, solidarité, Frédéric Bizarre. Mais je voudrais d'abord, vous êtes professeur à Subdeco, vous êtes professeur d'économie, vous êtes président fondateur de l'Institut Santé, et évidemment vous êtes occupé de questions de profession sociale et de santé. On va parler de ça, hein, et Dieu sait si on en parle, vous avez vu que là, j'avais reçu la sénatrice Eustache Brignaud sur le pass sanitaire qui va être prolongé. Enfin, toutes les conséquences en domino de ce qui se passe depuis le Covid-19. Mais je voudrais dire d'abord, ce livre est le produit de quoi, de quel travail ?
C'est le produit d'un travail d'intelligence collective de 3 ans. J'ai créé avec d'autres personnes l'Institut Santé en 2018 pour être prêt à ces présidentielles, pour proposer un programme.
Donc avant le Covid.
Donc avant le COVID. Oui. Vous avez raison, c'est ouais. Tout ça.
Le déclin
de notre système de santé n'est pas lié au Covid. Le Covid n'est qu'un révélateur et j'espère un accélérateur de son changement. Donc on a créé ça pourquoi ? Parce que, d'abord, comme beaucoup, moi j'avais travaillé dans mon coin pendant des années, essayer de réfléchir à ce nouveau modèle de protection sociale. Bon, mais vous arrivez vite à un plafond de verre parce que vous ne pouvez pas, un seul cerveau, avoir la transversalité nécessaire pour repenser un modèle social. Bon, donc on s'est dit qu'on allait faire cette transversalité à la fois sur le plan professionnel, intellectuel et sur le plan politique. Parce que si vous voulez changer de modèle, il faut arriver à trouver un consensus, comme ça a été en 1945. Le CNR a d'abord travaillé collectivement avant d'essayer de trouver ce consensus
sécurité
entre les
sociale,
communistes
etc.,
et la gaulliste.
Etc., hein, oui.
Parce que c'est ça qu'on réinvente. On prend l'exemple de la santé, mais c'est tout ça qu'on veut
réinventer. Donc vous avez pris dans toutes les...
Toutes les principales sciences sociales, sociologues, les philosophes, les économistes, beaucoup de professionnels de santé, évidemment, dont certains que vous connaissez. Donc on a fini à une centaine en deux phases. La première phase, c'est qu'on a produit nous-mêmes un premier contenu, d'ailleurs sous forme d'un livre il y a un an et demi, et puis on a fait des conférences de consensus, et là c'est vrai que le Covid nous a aidés, parce que les gens ont pris l'habitude de Zoom, et autant c'est difficile de réunir les gens physiquement plusieurs fois, autant ça a été assez facile avec le Zoom. Donc on a fait une bonne douzaine de conférences de consensus, avec qui des politiques, qui des professionnels de santé, qui des industriels, et pour arriver à un contenu qui est cohérent, et qui on peut le dire, c'est pour ça qu'on expliquera pourquoi la seule réforme possible, répond aux enjeux, respecte la culture française et emmène tout le monde dans ce nouveau modèle, à l'exception toujours de quelques extrêmes qui ne souhaitent que rien ne change.
Oui. Et alors justement, de ce point de vue-là, donc, ça a été 3 ans de travail, 3 ans, et puis vous sortez ce livre, effectivement, et on voit qu'il aborde tous les domaines. Mais auparavant, avant d'expliquer ce que c'est pour vous l'autonomie solidaire, parce que c'est le concept, c'est le rassemblement des deux termes qui est important. Qu'est-ce qui a fait ? On l'a dit, mais je voudrais... Qu'est-ce qui a fait qu'en 1945, en 1950, en 1970, le système de santé français était considéré comme un des meilleurs du monde, sinon le meilleur, pour la protection, pour les hôpitaux, pour les cliniques, les meilleurs spécialistes, etc., etc. On venait en France, comme on est dans l'Eldorado, d'ailleurs on vient toujours pour se soigner. Qu'est-ce qu'il y a vraiment, dans les 30 ou 40 ans, qu'est-ce qui s'est dégradé ou qui a disparu ?
C'est une bonne question, parce qu'il faut déjà comprendre le passé pour construire l'avenir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a construit le meilleur système de santé au monde ? D'abord, on a construit un outil, la sécurité sociale, qui a vraiment aidé à solidariser la population autour des principaux risques sociaux. Et ça, ce noyau solidaire est absolument indispensable dans tout système. On pourra y revenir. Pourquoi ? Dans ce modèle, qui était un peu le premier modèle généralisé de santé, c'est vrai pour tous les pays, ce qu'il fallait, c'est médicaliser les territoires. C'est-à-dire qu'il fallait, c'est le modèle de l'accès aux soins. Il faut arriver à ce que toute la population ait un accès de proximité pour les soins courants et de relative proximité pour les soins plus complexes, avec des professionnels de santé de grande qualité. Et ça, c'est la France a réussi mieux que tous les autres pays à réaliser cela. C'est-à-dire que, et ce sont les ordonnances Debré de 58, on a créé une excellence au sein d'hôpitaux d'excellence qui faisait de la formation de grande qualité, qui faisait de la recherche de grande qualité, de l'enseignement de la grande qualité et les soins très complexes. Et ça a formidablement bien fonctionné. Donc on est arrivé en 2000, mais j'avais appelé ça le champ du cygne, je vais vous expliquer pourquoi, ouais. Avec finalement le pays où on avait réussi le mieux au monde cette médicalisation des territoires.
Donc 40 ans glorieuses.
Voilà.
Quoi.
Alors, 40 années glorieuses. Mais avec un système qui commençait à s'effriter, pour plusieurs raisons, c'est que vous avez on appelle une triple transition. La transition démographique qui fait que, comme le modèle marche, les gens vivent plus longtemps. On a une espérance de vie qui s'est accentuée, même s'il ne faut pas oublier que c'est que 20% lié au système de soins, l'espérance de vie. Hein, c'est le développement économique et social, sont les comportements.
Enfin, c'est déjà pas mal.
Mais c'est déjà important. Bon. Ouais. Et puis, il y avait une transition aussi épidémiologique. C'est-à-dire qu'on passe de risques courts à des risques longs. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'un modèle de risque court est un modèle qui n'implique pas l'individu dans la gestion de ce risque, hein, comme c'était le cas dans notre modèle encore actuel, mais de 45, c'est-à-dire de dire, André Berkoff, vous ne vous occupez pas de votre santé, c'est moi le système qui vais m'occuper de votre santé. J'ai médicalisé les territoires, donc vous aurez un accès en cas de problème à un professionnel de santé. Idem pour la retraite, hein, où les gens...
On ne s'occupe pas de votre santé actuelle, de prévention, de quoi que ce soit.
Non, on attend que le problème arrive. Mais ça a été vrai pour le chômage, c'est intéressant, parce que vous savez, on a une sécurité sociale avec 4 branches, 5 maintenant avec la dépendance, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous avez une stratégie de gestion de risque. Un système de santé, c'est une stratégie de gestion de risque. La gestion du risque dans le modèle de 45, c'est on attend que le risque s'exerce, arrive, et on s'occupe de l'individu. Et on a été extrêmement efficace pour s'occuper de l'individu malade, à la retraite, au chômage et tout ça. Mais dans le monde d'aujourd'hui, ce système-là ne peut pas fonctionner parce que les gens vivant de plus en plus vieux, vous avez une demande qui explose si vous attendez cette demande s'exerce. Parce que les risques étant plus longs, vous ne pouvez pas déresponsabiliser les individus. Il faut les impliquer parce qu'il faut, d'où cette autonomie, il faut aller vers l'autonomie qui n'était pas dans le premier modèle. Autant la solidarité y était, mais l'autonomie n'y était pas. Parce que pour rendre accessibles les professionnels de santé...
C'était plutôt la dépendance
au modèle. Hein, ce fameux colloque singulier avec ce déséquilibre entre le professionnel et le patient. On appelait ça le patient parce qu'on est passif, on va chez son médecin et on attend qu'il nous trouve le
traitement. C'est très joli, d'ailleurs, le mot patience.
Le mot patience. Donc, vous voyez, ça, il faut que ça soit consensuel. Après, on peut discuter de comment est-ce qu'on va vers ce nouveau modèle. Vous savez, ce qu'on dit là, le problème, c'est que qui sont les politiques qui, ce raisonnement assez simple, quand même, qu'on tient là, on fait ce raisonnement pour se dire ce sujet doit être au cœur, parce qu'il faut le débattre démocratiquement. C'est pas rien de changer de modèle social. Pour le moment, pas beaucoup.
Oui, c'est vrai que le modèle social, en tout cas, on ne l'a entendu ni à l'Assemblée, ni à l'Élysée, et depuis des décennies et des décennies. Alors, justement, arrivons à la responsabilisation. Quand vous dites le monde a complètement changé, on est en 2021. Pourquoi vous parliez du champ du cygne en l'an 2000? Vous disiez l'an 2000, c'était le champ du cygne.
Parce que, en fait, ce modèle de 45 de médicalisation des territoires n'était plus le modèle qui correspond au 21e siècle.
Dès l'an 2000.
Oui, dès l'an 2000, parce qu'en fait, ces transitions dont on parle, le vieillissement démographique, la transition épidémique, passer de pathologies aiguës dominantes à des pathologies chroniques. 80% aujourd'hui des gens décèdent de pathologies chroniques. Et puis cette révolution technologique qui permet de gérer ces deux premières transitions, c'était à l'aume du changement de millénaire. Ce modèle-là ne pouvait pas être compétitif. Donc on l'a fait survivre pendant une vingtaine d'années, gouvernement après gouvernement. D'ailleurs, en aggravant le système, on pourra venir sur cette étatisation et cette ultra-bureaucratisation, parce qu'on s'est dit, on va quand même tenir le modèle, et pour le tenir, il faut le normer, il faut le bureaucratiser, c'est comme ça qu'on va le tenir avec des rênes bureaucratiques. Ouais. Bon, mais donc, c'était fini, ce chemin-là. Donc, en fait, notre système déclinait déjà, et d'autres qui travaillaient davantage en amont sur le risque, notamment les pays scandinaves et autres, commençaient à prendre le relais. Les Allemands ont fait aussi ce virage-là, mais nous ne l'avons toujours pas.
En fait, on disait en l'an 2000 après, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent, mais faisons comme si rien ne change.
Parce que, mais vous savez, je considère qu'il y a une co-responsabilité de tous dans cela, toujours facile. Bon. Mais pourquoi? Parce que pour un homme politique, pour quelqu'un qui prend des responsabilités, c'est quand même plus facile de dire nous avons le meilleur système de santé du monde, qui correspond à l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il fallait que ce système s'effondre pour qu'on puisse faire passer le message aux citoyens qu'il fallait changer de modèle. Parce que c'est pas simple de changer
mais
de modèle social.
Il n'est pas passé encore le message.
Oui, sauf que là, vous avez un décalage quand même, à mon avis en tout cas, entre une offre politique qui essaie de vous faire croire que continuons avec ce système, hein, y compris malheureusement depuis 4 ans, où on a pensé qu'en mettant de l'argent dans l'hôpital public, on allait sauver le système. Hein, le ministre de la Santé dit au Ségur de la Santé, on a réglé le problème de l'hôpital public pour 10 ans.
Oui, en supprimant des vingtaines de milliers de lits.
C'est surtout que ce n'est pas qu'une question d'injection d'argent.
Oui, juste une chose, Frédéric Bizarre. Est-ce que le principe de précaution a joué, inscrit dans la Constitution ? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part, sans faire de psychanalyse d'école primaire, dans l'inconscient des gouvernants, en disant oui, attendez, vous êtes gentil, mais principe de précaution, si je laisse faire, et ça s'est un peu passé pour le Covid, à mon avis, ça va être terrible. Est-ce que ça n'a pas joué ?
Vous voulez dire que si ça a joué sur une prise de conscience qu'il fallait... Ça, c'est pas vraiment la réponse à ça. Malheureusement, ça n'a pas joué dans le sens où on met dans la Constitution ce principe de précaution, mais on ne l'applique pas véritablement pour repenser le modèle social. Ça n'a pas joué, puisque on est toujours sur le curatif en santé, où je vous protège de votre retraite parce que je vous promets une retraite, mais pensez à votre retraite dès votre plus jeune âge et en aidant à construire la retraite. C'est pareil, la retraite. Il y a un seul domaine où on l'a fait, pas de façon très efficace, mais où on l'a fait stratégiquement, c'est le travail. Il y a 5-6 ans, on a compris que pour régler la question du chômage, il fallait pas simplement s'occuper des chômeurs, il fallait s'occuper des actifs, en les rendant employables, quelle que soit l'évolution de leur métier, la formation continue. Donc, mais la formation continue, c'est la prévention pour la santé, si vous voulez. Et donc, on a basculé, en fait, on a basculé la gestion du modèle de l'après, de l'aval, vers l'avant, vers l'amont. Vous voyez, ça, on l'a fait. Et il faut appliquer ce changement, ce virage stratégique à tous les risques sociaux. Et là, on démontre comment le faire dans la santé, qui est probablement le système le plus complexe à réformer.
Alors, justement, après les informations, on va parler de cette autonomie et de cette solidarité. Juste une chose, est-ce que, à votre avis, parce que des livres pareils, vraiment, que je recommande, qui est un livre tout à fait passionnant et qui ouvre des voies, enfin qui ouvre des portes, en tout cas, intellectuellement, ça permet de voir, et même du point de vue de la faisabilité, c'est tout à fait faisable. Est-ce que vous espérez quand même peser sur ce qui va se passer ? Parce que là, on est 6 mois d'élection présidentielle. Est-ce que les politiques, enfin, ou des politiques, peuvent s'en emparer aujourd'hui ?
Si je regarde encore une fois les sujets abordés, je dirais c'est mal parti, mais on l'abordera après. Vous voyez, je crois que c'est que par les idées, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Donc je pense qu'il y a un moment, cette crise hospitalière qui est toujours ce qui ressort le plus, nous ne sommes pas au bout. Moi je pense que la première étape, c'est d'avoir un programme d'idées consensuelles prêts à appliquer. Il faut que les gens le lisent, ce qu'ils sont en train de faire. Grâce à vous, on peut faire diffuser davantage le contenu, mais c'est prêt à l'emploi. La condition pour que ça se fasse, c'est qu'on arrive à le mettre dans le débat démocratique. Parce que après, vous le faites en 100 jours. Vous faites l'essentiel en 100 jours.
Hein, mais 100 jours, à votre avis, c'est faisable.
Oui, je rappelle que ce qui a structuré le précédent modèle, ce sont des ordonnances en octobre 1945 et des ordonnances en décembre 1958. Hein, vous faites, et là, on peut y aller par ordonnance, sous réserve, parce qu'à mon avis, il n'y a pas à nouveau à relancer un débat sur un sujet complexe.
Il y a un consensus.
Sous réserve qu'il y ait un débat démocratique avant la présidentielle. C'est ce qu'on essaie de faire.
Eh bien, on va continuer en tout cas ce débat démocratique après les informations.
Et c'est justement parce que c'est un sujet complexe que vous pouvez poser vos questions à Frédéric Bizarre, puisque c'est sa spécialité. Il est économiste spécialisé en santé. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Jean Castex, le Premier ministre que le monde entier nous envie, l'a bien dit, si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, il ne faut pas tomber malade. Mais il a raison. Il ne faut pas tomber malade et c'est aussi une responsabilisation. Et dans un livre que je vous recommande, vraiment auditeur du Sud Radio, lisez-le, Frédéric Bizarre parle de l'autonomie solidaire en santé. Ça vous concerne parce que la santé, c'est pas seulement quand on tombe malade. Ce n'est même pas d'abord quand on tombe malade. Il faut s'en occuper quand on est justement en bonne santé. Alors, définissez un peu cette autonomie solidaire. Autonomie, c'est quoi et comment ? Et solidaire, c'est quoi et comment ?
Alors, pourquoi l'autonomie solidaire ? D'abord, c'est pour une raison, je dirais, philosophique. La première, qu'est-ce que le progrès social aujourd'hui ? Si on veut changer de modèle social, il faut quand même proposer quelque chose qui représente un progrès. Le modèle social actuel est un modèle qui se substitue aux individus en les protégeant de façon relativement efficace, mais sans activer leur capacité individuelle et souvent sans laisser totalement un libre arbitre, puisque c'est le système qui vous protège. D'accord ? Or, le progrès, c'est l'idéal d'autonomie des Lumières, hein, c'est la chose, la sortie du monde industriel, c'est Engelhardt qui dit ça, devrait s'accompagner d'un idéal d'autonomie. Bon, donc c'est quand même laisser à chaque individu son libre arbitre et la possibilité de pouvoir développer. C'est une notion d'approche développementale de l'individu. En fait, le but, c'est pas que tout le monde soit en haut de la pyramide, c'est que tout le monde puisse développer ses capacités individuelles pour réussir sa vie. D'accord ? C'est ça le modèle. Donc il faut travailler sur les capacités individuelles. Donc il faut rendre les gens autonomes. C'est-à-dire qu'il faut redonner les clés, quelque part, du camion aux individus par rapport à leur retraite, par rapport à leur santé.
Mais Frédéric Bizard, il y a beaucoup... Oui, pardon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de faire ce
Alors,
travail.
Vous voyez, non, mais ça fait peur, souvent. Ça fait peur. Voilà. Non, mais si vous voulez, ce, qu'il faut, ce dont il faut être convaincu, c'est la deuxième chose. La deuxième raison, c'est pour une raison de stratégie. Si vous voulez être bien protégé, il faut vous impliquer dans votre santé. Pensez que parce que vous avez un hôpital, comme souvent on l'entend, à 20 km de chez vous et de bons médecins autour de vous, vous êtes protégé pour votre santé est une erreur. D'accord ? L'espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, et devient l'indicateur principal. D'abord, c'est l'indicateur principal de votre qualité de vie, parce que même si vous survivez aujourd'hui beaucoup plus longtemps à vos pathologies, vous vivez dans de moins bonnes conditions. Mais si on veut un système performant, parce que vous avez ce vieillissement de la population, parce qu'on fait vivre les gens de plus en plus longtemps, il faut absolument travailler sur ce maintien en bonne santé. Et ça, ça passe par de l'autonomie. C'est pas l'État, même s'il pense pouvoir le faire, notamment on voit un peu aujourd'hui dans un pass sanitaire qui manque de proportionnalité, c'est pas l'État, c'est pas le Conseil, on va pas garder un
c'est
Conseil national
de
défense de décider, ou alors on enlève du libre-arbitre et de la liberté individuelle aux gens de le faire. Donc c'est comment on peut appeler ça responsabilisation, moi j'appelle ça autonomie, mais ça passe donc par l'éducation à la santé. Ça passe par des services d'accompagnement parce que pour vous et pour moi, c'est peut-être relativement simple. Et encore, c'est pas que socio-éducatif ou socio-économique la question de savoir. C'est une question culturelle. Dans ce nouveau modèle, il n'y a pas une révolution des acteurs, mais il y a une révolution culturelle. Il faut vraiment que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous dirigent pensent qu'un bon système de santé, c'est un système qui va rendre autonomes et en particulier les plus défavorisés le plus efficacement possible les individus dans la gestion
mais
de leur
Frédéric
santé.
Mais Frédéric Bizard, qui dit autonomie, dit éducation.
Absolument.
Dit éducation,
absolument.
Parce que la santé... Alors, est-ce que... Non, mais justement, est-ce que le problème dit, attendez, vous êtes gentil, moi j'ai mon travail, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, je comprends très bien ce que vous dites, et intellectuellement je suis d'accord avec vous, mais j'ai pas le temps. Si je n'ai pas des gens, si je peux pas faire confiance à des gens qui, dont c'est l'expertise, dont médecins, infirmiers, personnel de santé, etc., c'est pas moi qui vais me substituer à eux. Comment je fais ?
C'est le débat historique sur la notion de capital humain. Ça rejoint la théorie du capital humain. Et la phrase de Lincoln, si vous n'aimez pas l'éducation, préférez l'ignorance. Si vous n'aimez pas la prévention, préférez la maladie. Donc il y a toujours cette notion-là. Et on a beaucoup travaillé, notamment et des gens comme Gary Becker, des gens sur est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le capital humain ou pas ? Oui, ça vaut le coup d'investir dans le capital humain. Comment on fait ? Ça, c'est justement ce nouveau modèle où il faut le faire dès la petite enfance. Plus vous agissez tôt, plus c'est efficace.
Alors
plus le rendement sur le capital humain est
efficace.
Alors comment on fait ? D'abord, vous mettez la santé publique, c'est-à-dire les besoins. Il y a trois piliers dans le nouveau modèle. Pour être rapide, il faut passer, donc on l'a compris, d'un accès aux soins à un accès à la santé. Deuxième chose, il faut passer d'une gestion par l'offre où je gère des professionnels de santé à une gestion par la demande de santé où je vais gérer des besoins de santé. Et la troisième chose, c'est que je vais passer on va dire, d'une organisation étatique à une organisation démocratique.
Donnez-moi un ou deux exemples.
Donc, un exemple clair, c'est que vous avez un système qui va donc, dont le pivot, c'est la santé publique. C'est-à-dire que vous allez organiser la santé de façon territoriale. Vous ne l'organisez pas de Paris. On a proposé, mais tout ça peut se discuter, 450 territoires de santé qui correspondent à peu près à 150 000 personnes. Et ce qu'on essaie de faire depuis 25 ans, mais on ne se préoccupe pas des individus. Donc, en fait, ce sont les professionnels qui savent qu'ils ont des groupements hospitaliers de territoire ou pas. Non, c'est un territoire de santé où vous, André Berkoff, vous allez vivre dans un territoire de santé dans lequel vous allez avoir toutes les réponses à vos besoins. Ça. Donc on gère à partir du besoin. On gère
du local.
On gère du local. Donc d'accord. Vous voyez bien qu'il faut toute une nouvelle gouvernance qui permette une gouvernance territoriale et puis qui soit pilotée à un échelon régional puis à un échelon national, puisqu'il faut qu'il y ait une politique nationale qui soit déclinée jusqu'au territoire. Donc c'est très concret. Vous avez qui, aujourd'hui, il n'y a pas de système de santé publique en France. On l'a vu avec la crise Covid, c'était intéressant. On a géré et tout autre pouvoir politique aurait fait pareil, parce que c'est un problème systémique.
Au coup par coup.
Ouais. Au coup par coup, parce que nous n'avions pas d'instance qui permettait d'anticiper. D'où ce conseil de défense qui existe toujours alors qu'on maîtrise. Parce que à qui donner les clés? Les agences régionales de santé, mais elles n'ont jamais été pensées pour ça. Donc elles sont pas
organisées. Par quoi servent-elles aujourd'hui, franchement, Frédéric Bizarre?
C'est là où il faut repenser. On a dit il fallait que l'État reprenne tout le pouvoir depuis 25 ans. Donc on a créé des agences de l'État, des représentants de l'État dans les régions, et on leur a donné tout pouvoir sur les soins, la santé publique.
C'est comme les préfets, quoi. C'est les préfets.
Ce sont des préfets. Ouais, sont des préfets. Ouais. Sauf que ce sont des hauts fonctionnaires avec des gens tout à fait remarquables, mais qui n'ont pas la compétence pour gérer ça. Donc ils administrent. Ce que c'est faire un haut fonctionnaire, c'est administrer. D'où cette ultra-bureaucratisation qui est ressentie et cette déresponsabilisation des professionnels de santé. Vous êtes dans un secteur où vous avez de la haute compétence. Vous gérez de la haute compétence. Que ça soit chez les médecins, que ça soit chez les chercheurs, que ça soit chez les industriels, vous gérez ça. Donc il faut savoir le gérer en vous appuyant sur cette compétence. Mais là, on a asphyxié cette compétence. C'est un des problèmes numéro un à l'hôpital. Quand vous avez un chef de service qui sait très bien qu'il n'a aucun pouvoir d'organisation et de gestion de son service, franchement, il en prend son parti. Mais c'est pas un bon système.
Il se résigne.
Donc, très concrètement, il faut que chacun dans son territoire, de la petite enfance jusqu'à la fin de la vie, ait des services d'accompagnement au-delà du soin. D'accord ? Ça passe par de l'éducation, mais ça peut être aussi par les bons choix de sport, ça peut être par les bons choix de nutrition, ça peut être. Ça, c'est aussi important que le professionnel de santé. Donc, par exemple, nous, on propose, il faut faire aboutir la loi Kouchner, qui était une bonne loi, c'est-à-dire qui a dit, mais il faut que des patients accompagnent d'autres patients, ou des usagers accompagnent d'autres usagers, parce qu'il y a des gens qui sont plus avertis,
qui sont plus pédagogues, etc.
Ouais, d'accord, et bien nous faisons aboutir cette loi. Or, on a créé l'organe, mais pas la fonction. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui ces représentants de patients, mais qui sont des bénévoles, au mieux, qui ne sont pas intégrés dans le système. Ouais. Eh bien, nous, tous ces gens qu'il faut former, donc on propose d'ouvrir des départements de formation des usagers, puisqu'il faut professionnaliser ça, et d'en faire des professionnels de santé,
d'accompagnement, dans la chose,
vous voyez. Donc, il faut, à qui est-ce qu'on va confier tout ce maintien en bonne santé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les PMI, pour la protection des enfants...
Des
petits-enfants maternels et infantiles. On a donné ça au département, puis la santé à l'école qui est stratégique, on a donné ça à l'éducation nationale qui s'en occupe pas ou très peu, puis la santé au travail, on a donné ça au ministère du travail, dont c'est à peu près le dernier des soucis. Donc on regroupe tout ça. On a pensé que le bon échelon, c'est le département, mais on peut le discuter, parce qu'on me dit non, mais le département, c'est pas forcément... Ok, mais on fait quoi? Il y a un moment, il faut faire des choix. Or, c'est le bon échelon géographique. Donc, vous regroupez tout ça au sein du conseil départemental à qui vous donnez la possibilité de le faire.
Et le vrai pouvoir d'agir, quoi.
Le vrai pouvoir d'agir et d'accompagner les individus. Et puis, vous pilotez le système quand on dit à partir des besoins. Ça veut dire que vous savez qu'aujourd'hui, on a un projet de loi de financement de sécurité sociale qui se discute actuellement à l'Assemblée nationale, qui est à peu près 240 milliards sur des soins de ville, des soins hospitaliers, mais qui est dénué de toute vision et de toute capacité à pouvoir discuter d'une politique de santé. Eh bien, la santé, ce que nous proposons, pour vous donner un exemple précis, c'est que ça soit un petit peu piloté comme la défense, c'est-à-dire qu'un projet de loi de programmation sanitaire à 5 ans. Pourquoi ? Parce que comment voulez-vous remplir des objectifs de santé publique en un an ? D'accord ? Vous ne faites que de la comptabilité sur un an. Donc, vous donnez des perspectives d'au moins 5 ans, une vision. D'ailleurs, 5 ans qui permet d'en parler aussi pendant les présidentielles. C'est important aussi sur le plan technologique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune société de biotechnologie qui travaillait sur l'ARN messager ? Alors que l'ARN messager a été inventé en France, 1961, Mono Jacob. Pourquoi ? Mais parce que les industriels n'ont plus aucune capacité de vision. On leur donne, les règles du jeu changent à peu près tous les ans. Donc ils vont investir dans d'autres pays où vous avez une vision. C'est absolument anormal qu'il y ait aucune société de biotechnologie qui soit mise sur les rênes.
On navigue à la godille, au doigt
mouillé. Mais parce que les instances poussent à ça. Donc, dans la reconstruction, pour du concret, encore une fois, maintenant c'est un projet de loi de programmation à 5 ans. Puis vous avez une révision budgétaire tous les ans pour voir si on atteint bien les objectifs. Ça n'empêche pas, d'ailleurs, c'est obligatoire. Bon, donc ça, c'est une chose. Deuxième évolution, vous savez que le ministre de la Santé est le numéro 14 sur le plan politique, au sein du gouvernement. Donc autant dire que la santé, qui est vue comme les soins et l'organisation des hôpitaux par l'organe politique...
Et pourtant, on ne parle que de ça.
Mais en fait, le ministre de la Santé n'a en réalité aucun pouvoir sur les choses. Et en général, on prend plutôt un médecin pour dire il va plutôt nous gérer les médecins, ça va plutôt faire ça, donc parce qu'un médecin parle à un médecin, c'est mieux. Or, la santé, c'est de la politique. La santé, c'est de la politique d'organisation des territoires, c'est de la politique agricole, c'est de la politique du sport, c'est de la politique... Donc, il faut une fonction transversale à ça. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un secrétaire d'État de santé publique qui soit à la fois sous le ministre de la Santé et sous Matignon, parce qu'il faut faire de la transversalité en politique. Alors après, on vous dit « Ah oui, mais vous savez, ça, c'est compliqué. » Non, mais très bien. Si on veut être efficace, il y a un moment où il faut un petit peu faire évoluer la gouvernance et les instances.
On en parle tout de suite après, c'est pas passionnant, on en parle tout de suite après ceci.
Qu'est-ce qui vous choque dans ce que révèle Frédéric Bizard ? Quelles suggestions auriez-vous à faire ou quelles questions avez-vous à poser à Frédéric Bizard ? Il reste avec nous jusqu'à 14h et vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et vous nous appelez au 0826 300 300 jusqu'à 14h pour poser vos questions à Frédéric Bizard. On parle santé évidemment depuis déjà une demi-heure. Et nous sommes avec Dust qui nous appelle de Héran en Haute-Garonne. Bonjour Dust.
Oui, bonjour Dust, bonjour.
Il y a 25 ans, suite à quelques expériences professionnelles avec les laboratoires pharmaceutiques qui se sont mal terminées, j'ai perdu confiance à la médecine allopathique et je me suis tourné vers les médecines naturelles. Et pendant ces 20 ans, en fait, il se trouve que j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que, j'allais payer mes soins, tous mes soins. Et j'ai compris aussi que ça me permettait de me mettre dans un état d'esprit psychologique plus guerrier, plus...
Plus autonome, c'est ça, quelque part.
On parlait d'autonomie, je voulais être responsable de ma propre guérison. Ça m'est arrivé de passer chez mon médecin de famille, qui est à la retraite maintenant et que j'adore, pour avoir des diagnostics plus pointus, mais je me suis toujours soigné tout seul. Donc je pense que peut-être la gratuité a cet effet pervers où ça nous enlève notre autonomie par rapport à notre santé. Alors évidemment, il y a des milieux sociaux qui ont besoin d'aide, évidemment, quand on est très 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 pauvre. Mais moi, je suis resté au RSA quand même 10 ans et j'étais déjà dans ces médecines qu'on appelle douces. Et je voulais aussi trouver des solutions rentables, parce que je n'allais pas traîner des mois à dépenser des sous et pour ne pas être guéri. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses, peut-être un peu spéciale, mais en tout cas, sur moi, personnellement, je suis très content d'avoir fait ces choix. Et en plus, au niveau de mes dépenses, ça ruisselle sur des gens qui sont beaucoup plus locaux. Parce que les huiles essentielles sont fabriquées en France, les plantes qu'on achète chez les herboristes sont produites par des agriculteurs français, et du coup, on dépend, et surtout, on n'alimente pas ce flot d'actionnaires qui se gavent sur les laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est à la base, C'est ça qui a changé ma vie. Ça m'a tellement choqué qu'on gère la maladie comme n'importe quelle activité boursière que j'ai arrêté de travailler dans ce milieu-là, quoi.
Alors, Frédéric Bizard, justement, gratuité, ça nous amène effectivement à ce fameux déficit de la sécurité sociale, sans parler de la fraude dont Charles Prats et beaucoup d'autres ont parlé, les 50 milliards par an, etc. Dost dit quelque chose, il dit, attendez-moi, assumons-nous, prenons sur nous et peut-être ça nous responsabilise plus.
Oui, alors d'abord, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que évidemment, il y a une prise de conscience que l'on voit à l'échelle des individus, sans que le système véritablement ait bougé. Mais il y a une prise de conscience que les gens sont intelligents. Donc les gens comprennent bien que vous êtes le principal responsable de cette espérance de vie sans incapacité, du fait de maintenir votre capital santé le plus en forme possible. Donc les gens le savent, ça. Bon, enfin en tout cas, ils en prennent conscience. Même si c'est compliqué, hein, pourquoi autant de gens fument alors qui savent que c'est mauvais pour leur santé, c'est qu'il y a des comportements qui sont compliqués. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut rejeter tous ceux qui interviennent sur le plan curatif, que vous soyez des laboratoires ou pas. Hein. C'est un équilibre à trouver, pas entrer dans le chef des laboratoires, mais croyez-moi, quand vous avez une pathologie grave, vous êtes content qu'il y ait de l'innovation pour essayer de venir vous sauver. La médecine allopathique, elle est absolument cruciale lorsque, évidemment, il y a des problèmes. La question de la gratuité, elle est centrale. On va faire vite, mais c'est une question purement économique. Le modèle français est un modèle qui n'intègre pas, contrairement à ce qu'on dit depuis 20 ans, la gratuité. Contrairement au modèle anglais, où c'est no bills. Le modèle anglais, c'est un modèle système national de santé, géré par l'État, qui vous offre, qui contrôle une offre, qui vous donne à disposition gratuite. La qualité de cette offre va dépendre un petit peu de la conjoncture économique et de l'investissement qu'on y met. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez dans le système privé. D'accord ? Donc oui, on a vu qu'il y a... Et puis c'est géré par des files d'attente. André, ce qui est très important, c'est que ça soit le système anglais ou le système américain, vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas autonome dans le système. Le système français est le seul système au monde qui a fait de la liberté des acteurs, que ce soit les professionnels de santé qu'on a gardé indépendants ou des usagers, des êtres libres. Okay,
vous c'est choisissez pour ça que c'est un modèle républicain.
Mais la contrepartie de cette liberté, c'est que vous participez au financement des soins par votre travail, mais aussi pour les soins courants, parce qu'on a appelé le ticket modérateur. D'accord ? C'est-à-dire que tous les soins ont un ticket modérateur dont vous êtes exonéré si c'est une pathologie grave pour vous protéger, pour éviter que de vous soigner vous mette à risque sur un plan financier. Et ça, il faut évidemment le conserver, et pour d'autres types d'exonérations, notamment si vous n'avez pas assez, si vous n'avez pas de moyens. Il y a 10 millions de Français qui sont exonérés du ticket modérateur. Mais l'erreur, si on veut tuer le modèle français, on va vers la gratuité, parce que derrière la gratuité, il y a la perte de responsabilité, la perte de liberté, et vous ne choisirez plus qui vous soignera. Aux États-Unis, c'est un autre modèle. Vous êtes dans les mains de votre assureur privé. Hein, vous souscrivez un contrat avec votre assureur privé, mais une fois, et donc, c'est lui qui va vous dire où vous allez vous faire soigner, souvent comment vous allez vous faire soigner.
Mais ça marche,
parce
non
qu'ils a... Ah ben ça marche, c'est, sauf que c'est beaucoup plus... Alors pour le coup, du côté américain, c'est beaucoup plus coûteux, parce que le système privé fait que c'est beaucoup plus coûteux. Hein, les Suisses aussi l'ont fait, on l'a vu. Mais surtout, vous n'avez plus cette liberté de choix qui fait la richesse du modèle français. Et donc, cette responsabilisation de l'individu. L'autonomie solidaire vient réactiver, en fait, le cœur du modèle français, qui est un modèle républicain. Qui est qu'en fait, on vous préserve votre liberté de choix, parce que, encore une fois, dans le maintien en bonne santé, qui va décider de comment vous allez gérer ce maintien en bonne santé ?
Oui, mais à partir du moment où on a ces déficits absolument abyssaux.
Allons sur le déficit. Non, mais bien sûr que c'est important. Pourquoi est-ce qu'il y a un déficit ? 60%, 80% de la hausse des dépenses, ce sont les affections de longue durée. Les 13 millions de Français qui ont une affection de longue durée.
C'est 80%.
C'est-à-dire une pathologie grave, 80% de la hausse des dépenses. Hausse, c'est-à-dire du nouveau flux. Et dans le stock, c'est les deux tiers. Donc ça, c'est l'élément essentiel. Donc là-dessus, ce que nous proposons concrètement, c'est qu'il faut organiser ce parcours. Parce qu'il y a une des raisons pour lesquelles il y a une surdépense parmi ces ALD, c'est que, vous, alors pour le coup, c'est une fausse liberté, parce que vous avez un cancer, et donc vous êtes dans une espèce de non-organisation de votre parcours. D'accord ? Et encore, le cancer, les plans cancer l'ont structuré, mais pas pour les autres ALD. Donc nous proposons un contrat, ce qu'on appelle un contrat thérapeutique, où lorsque vous rentrez, malheureusement, et avec l'âge, on sera nombreux à y rentrer, vous avez un parcours qui est organisé dans un contrat. Qui dit contrat, dit à la fois responsabilisation, accompagnement, un contrat thérapeutique entre le professionnel de santé qui coordonne votre parcours, l'assurance santé et le donc vous avez et le patient oui. Et le patient. Donc vous avez une structuration du parcours. Sachez que un point de gain de productivité, désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on parle économie dans la santé parce que ça c'est aussi un problème, c'est 1 milliard. Hein, c'est 100 milliards d'euros. Donc si vous voulez c'est une hausse de 4 à 5% par an. Du fait d'une non-organisation du parcours. Donc voilà un exemple, comment vous reprenez contrôle sur la maîtrise des dépenses. Deuxième exemple, on a parlé de suradministration. Vous savez que la France, après les États-Unis, est le pays avec plus de 15 milliards d'euros de dépenses administratives, le plus coûteux administrativement. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'assurance maladie, on a de multiples régimes qui n'ont plus leur état d'être. On a des délégations à des mutuelles pour gérer pour certaines catégories, ce qui n'a aucun intérêt, ce qui dégrade la qualité, mais ce qui coûte de l'argent. Et puis, il y a les assureurs privés qui sont à peu près 450 et qui entraînent un surcoût administratif par rapport à ça de l'ordre de 8 milliards. Donc, passons à un payeur unique. On a un payeur unique dans l'essentiel des paniers de soins, c'est l'assurance maladie.
Surtout,
mais vous avez des paniers dédiés pour les assureurs privés, comme c'est le cas en Allemagne. Pour les lunettes, même si les Allemands ont déremboursé maintenant les lunettes, ça ne sert à rien en fait, de rembourser des lunettes. On pourrait rentrer dedans, mais voilà, surcoût, vous payez plus d'administratif que véritablement de ce qui vous protège, hein, parce que c'est un risque sans aléa. Tous les 3 ans, vous devez acheter une lunette, ouais. Donc c'est 300 euros tous les 3 ans. Il n'y a pas besoin de prendre un assureur pour ça. On reste les derniers à assuré pour ça, mais ça arrange les assureurs. Bon, mais pour les transports sanitaires, pour l'audioprothèse, vous pouvez garder sur certains les assureurs privés dans un marché régulé. Mais sinon, vous n'avez qu'un seul assureur. Près de 10 milliards par an d'économies. D'accord. Dernier point, vous supprimez ces contrats collectifs qui sont gérés, qui coûtent 10 milliards aux entreprises et qui sont gérés à l'échelle des entreprises et qui permettent de très bien protéger les actifs et de très mal protéger les inactifs.
Et vous les remplacez par quoi ?
Par des contrats individuels. C'est-à-dire que vous mutualisez toute la population sur le risque. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus besoin d'être protégés, les inactifs, les retraités, les étudiants, les chômeurs, sont bien protégés. Vous faites des économies colossales. Vous parliez de la fraude, on pourra en parler.
Oui, on va en parler. Mais reprenons peut-être après ceci. Peut-être.
Nous irons à Paris avec Kamel et Clara, mais vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Vous avez jusqu'à 14h pour poser vos questions à Frédéric Bizarre.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous allons tout de suite à Paris avec Kamel qui pose ses questions au 0826 300 300. Bonjour Kamel.
Oui, bonjour Kamel.
Oui, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. J'aimerais commencer, si vous me permettez, à remercier cette émission, ce que vous êtes en train de faire, parce que ça éveille en chacun de nous, très certainement, l'intérêt que nous devons porter à ce qui me semble être la cause nationale numéro un pour lequel nous devons tous nous intéresser et faire en sorte que ce qui vient d'être dit à l'antenne est une véritable révolution. Et de cette révolution, il faut qu'il y ait un véritable engagement. Et cet engagement, moi, je veux en faire partie. Et pour avoir traversé auprès du milieu hospitalier énormément de moments.
Hey.
Allô ?
Oui,
vous m'entendez ?
Oui, très bien, Kamel.
C'est un témoignage que je veux apporter.
D'accord.
Pour dire que je fais partie de ces citoyens qui considèrent qu'effectivement, cette révolution doit avoir lieu. C'est une obligation, me semble-t-il, aujourd'hui, que les choses avancent. Alors, tous les sujets, vous les avez abordés, et c'est pour ça que je vous rejoins, mais il y en a,
Il y en a une, c'est celle des laboratoires. Vous voyez, cette dictature de la norme imposée dans notre pays fait qu'une lobotomisation est orchestrée. Ça veut dire qu'effectivement, se rendre chez son pharmacien, etc., etc. Vous voyez, ce modèle qui consiste à ne plus se battre, à ne plus s'interroger, moi, me met en peine. Et je savoure depuis tout à l'heure ce que votre invité nous développe, ce qu'il propose, et je rejoins cette structuration. C'est très important qu'il y ait un véritable bouleversement, révolution positive. Mon parcours, c'est celui d'avoir été, et je rends hommage à ces médecins, ces hôpitaux, à ceux qui sont investis et qui se battent. Je l'ai moi-même vécu au travers d'une pathologie pour mon fils, suivi par l'hôpital Trousseau pour une leucémie, et j'ai vu véritablement l'engagement des uns et des autres, mais j'ai également perçu le manque de moyens. Vous voyez, ce manque de moyens existe dans notre société. Il y a une désorganisation totale. Ensuite, à titre personnel, avoir suivi un diagnostic qui après avoir été attentif, que j'ai fait revisiter, enfin je me suis fait prescrire de nouvelles analyses et de contrôles, et s'apercevoir que finalement je n'avais rien. C'est ce que je vous dis, je peux le prouver, le démontrer. Je veux dire qu'il y a un moment dans notre société où il faut véritablement, et vous le dites depuis tout à l'heure, se prendre en main soi-même, savoir ce qui se passe, savoir, un peu comme un certain nombre de modèles, me semble-t-il, les Chinois ont une culture justement de la prévention, vous m'interrompez si je dis des bêtises, ont une culture de la prévention. Et c'est bien pour ça que on doit aussi marcher dans les pas de culture
différente. Kamel, je voudrais justement que Frédéric Bizard réponde. Merci en tout cas de votre intervention, parce que effectivement aujourd'hui nous sommes à un carrefour, comme on dit, où on fait le choix de l'autonomie solidaire. On fait le choix de se prendre en main ou pas. Mais je crois que quand Kamel aborde, quand même, on peut pas ne pas en parler. Pour vous, Frédéric Bizard, les labos, quand même, alors il ne s'agit pas ni de les diaboliser, ni de les angéliser, mais il y a quand même une puissance et un poids des labos, et quel rôle ils jouent dans cette réorganisation ? Parce que ce n'est pas rien, l'économiste que vous êtes le sait.
Alors, d'abord, je remercie Kamel et qui exprime très bien pourquoi ce qu'on a mis comme sous-titre « La seule réforme possible », c'est qu'il y a un vrai consensus autour de cette évolution, cette révolution culturelle, que la santé n'est pas simplement une absence de maladie, mais la santé, c'est source de bien-être, c'est source de réduction des inégalités sociales, c'est source de liberté. On l'a vu avec la Covid, quand vous n'avez plus une santé sous contrôle, vous perdez les libertés, vous perdez votre sécurité, c'est source de ce qu'on appelle le soft power, de géopolitique. Le biopouvoir va devenir, de la même façon que l'arme nucléaire a structuré l'ordre mondial. Bref, quand vous voyez qu'on ne parle pas aujourd'hui et qu'on ne fait pas de la santé se suffit à elle-même pour refaire nation dans un pays comme la France. Et on parle souvent de culture et on parle de France, mais juste un mot. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle serait la médecine sans les Bichat, sans les Pasteur, sans les Lennec, sans les Calmette, aujourd'hui sans les fécondations in vitro ? Où est-ce qu'elles ont été faites, les premières en Europe. Bref, je peux vous citer comme ça. Ça fait partie intégrante de notre patrimoine sur la chose. Concernant les laboratoires, le secteur des produits de santé, comme le reste du secteur, doit être complètement repensé. Vous avez, je prendrai juste un exemple, pourquoi est-ce qu'on est un des pays où les laboratoires ont une aussi mauvaise image ? Parce que c'est une boîte noire, la gestion des produits de santé, la gestion des médicaments.
Il n'y a pas que chez nous, il n'y a pas que chez nous.
Ah ben oui, mais enfin, nous, c'est quand même... je vous assure que les instances dirigeantes, on met un strapontin pour un représentant de patients qui n'a strictement aucun pouvoir.
Vous voulez dire qu'on ne sait rien sur les laboratoires.
Mais on ne sait rien. Mais au point que, lorsque le ministre vous dit, j'ai acheté 50 000 doses, et qui est très content, de doses du dernier médicament de Merck. C'est très bien, mais on sait combien ça coûte. On ne sait pas. Donc, juste ça, cette information nous dit « Non, mais c'est pas un secret industriel de savoir comment... » Donc, on a fait de la gestion du médicament une boîte noire. Donc, il faut sortir de cette boîte noire. Il faut prioriser l'innovation. On n'est pas... On parlait du financement, il faut repenser l'innovation pour que ce qu'on appelle ce panier de produits de santé, il soit revu chaque année pour prioriser l'innovation. Quand vous allez dans une pharmacie et que vous, généralement il n'y a aucun reste à charge, même si vous achetez du Doliprane, évidemment vous contentez comme ça l'usager, mais en fait vous bloquez la capacité de financer les vraies innovations. Donc vous sortez de la boîte noire en faisant une vraie démocratisation du pilotage.
Donc vous dites transparence quand même.
Oui, mais non, mais c'est plus que ça. C'est qu'il faut que dans les instances il y ait des représentants des patients et qu'on sache exactement les raisons des choix. Un Foucault l'avait déjà dit, vous avez une demande infinie pour des budgets qui sont finis. Donc il y a des arbitrages à faire, on ne peut pas tout rembourser. Mais il faut que cet arbitrage il soit fait avec les citoyens,
avec les patients,
et en transparence. Et en fait, donc aujourd'hui on a fait le choix d'essayer de dire on va tout rembourser, tout est possible. Non, tout n'est pas possible. Mais qui fait ce choix-là? Il faut dépolitiser ce choix-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez, c'est très difficile quand vous êtes ministre de la Santé d'aller dérembourser les médicaments, parce que vous savez que vous avez derrière des conséquences importantes sur votre popularité ou sur la chose. Il faut dépolitiser ça. Et on rembourse un médicament s'il a les critères médicaux de rembourser, ce qui permet de prioriser encore une fois l'innovation. Le reste, vous pouvez avoir un assureur privé si vous le souhaitez, mais il faut participer. Le prix moyen d'un médicament, c'est 7 euros. D'accord, c'est 7 euros. Vous savez qu'aujourd'hui, on a mis deux assureurs pour payer ça. On met l'assurance santé, l'assurance privée.
Je vais vous donner un exemple très précis, parce que ça fait partie quand même de... On va prendre un exemple que tout le monde a reconnu, y compris les grands défenseurs. Rappelez-vous le Remdesivir, des laboratoires Gilead. L'Union européenne a acheté pour 1 milliard d'euros, donc nous, de Remdesivir. La semaine d'avant, l'OMS avait dit que le Remdesivir, en ce qui concerne le Covid-19, ne sert pas à grand-chose, au contraire. Bon, est-ce que ça ne fait pas partie, ça, d'un système qui est quand même hallucinant, qu'on décide d'acheter 1 milliard d'euros d'Union européenne de Remdesivir, alors qu'on sait qu'il ne servira à rien dans ce pourquoi on l'a acheté?
Mais vous avez la réponse, c'est dans votre question. Qui décide de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament? Qui décide du prix d'un médicament? Les pouvoirs publics. Donc on ne me dise pas... Mais comme on en a fait quelque chose de très éloigné du citoyen qui se passe porte-close, c'est le plus puissant qui l'emporte. Et le plus puissant, ce n'est pas le politique. C'est celui qui va vous mettre en concurrence avec d'autres et qui va dire « Vous ne voulez pas de ce médicament, vous êtes sûr ?» Parce que sinon, on le commercialise ailleurs. Vous voyez, donc, cette espèce de jeu de mise en concurrence des États et qui ont fait... On a vu que quand on a mis... Et c'est pour ça qu'il faut aussi passer à l'échelon européen, quoi que on pense de la chose, pour décider de l'autorisation de mise sur le marché... Ouais. Ouais. Parce que plus vous êtes en face puissant face au laboratoire, plus vous avez un équilibre des jeux.
Sauf s'il y a conflit d'intérêts.
Sauf s'il y a conflit d'intérêts, d'où des instances de gouvernance qui soient démocratiques, transparentes. Voilà. Mais si vous regardiez aujourd'hui comment fonctionne la Haute Autorité de Santé, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, vous comprendrez que ces instances sont d'une faiblesse sans nom par rapport aux grands groupes pharmaceutiques.
Il
faut les renforcer, mais d'abord en faisant une seule, d'accord, qui soit à contrôler. Seule qui est une gouvernance vraiment démocratique. Et croyez-moi, les représentants des patients sont en fait les meilleurs alliés des laboratoires, parce qu'eux veulent l'innovation maintenant. Donc ils vont faire le tri dans ce qu'on rembourse. Ils vont s'assurer qu'il y ait bien un accès aux innovations. Vous savez que c'est 500 jours en France contre 120 jours en Allemagne, par exemple. Alors, on contorsionne la chose avec des autorisations d'urgence et tout le machin. Mais enfin, rendons le système efficace pour que l'ensemble des médicaments...
À condition que les patients aient la connaissance, la vraie connaissance.
D'où la formation des patients dans les universités. Voilà. Tout se tient, vous savez, dans un nouveau modèle, dans les universités de médecine, où il faut, comme il y a à Grenoble, par exemple, mais c'est une exception, ça devrait être une règle générale, où il faut que suffisamment de patients soient formés pour participer à ce genre de décision. Vous avez parfaitement raison, la formation, la compétence du patient est essentielle, mais croyez-moi, il n'y a pas de raison qu'un patient soit moins bien formé qu'un haut fonctionnaire.
Merci beaucoup en tout cas, Kamel, pour votre témoignage au 0826 300 300, et on reste jusqu'à 14h avec Frédéric Bizarre, et vous nous appelez. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Frédéric Bizarre, qui a rédigé cette seule réforme possible à un programme politique prêt à être adapté en quelques mois, tout simplement. Et nous sommes au 0826 300 300 avec Clara qui nous appelle de Paris. Bonjour Clara.
Oui, bonjour Clara.
Bonjour André, bonjour à votre invité.
Bonjour Clara.
Bonjour, merci d'abord pour l'espace de liberté de votre émission. Même si je suis pas toujours d'accord avec vous, c'est un espace essentiel, votre émission, donc je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, merci Clara.
Vraiment, vraiment de tout mon cœur. Voilà, je voulais vous dire, je voulais vous remercier d'abord parce qu'il y a très longtemps, vous avez, enfin très longtemps, pas si longtemps, vous aviez invité Xavier Bazin pour le livre Big Pharma démasqué.
Exact.
Et vous trouvez ce livre extraordinaire. Vraiment, et ça explique pas mal de choses que nous vivons depuis des années. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai acheté aussi le livre de Pamela Akel sur les vaccins. Et elle le dit bien dans son livre, où elle remet complètement, c'est une chercheuse et tout, elle remet complètement la vaccination en question. Et elle dit bien que ce qu'il faut, c'est la prévention avant tout. Et d'ailleurs, vos auditeurs, je vais se faire doublon, parce que vos deux auditeurs précédents en ont parlé. Mais la prévention avant tout, c'est-à-dire une bonne alimentation, privilégier le végétal et surtout bio le plus qu'on peut. Aussi. Et si les gouvernements avaient vraiment à cœur notre santé, est-ce que vous croirez est-ce que vous pensez qu'ils devraient développer le bio, ils devraient arrêter le sucre partout dans l'alimentation, ils devraient arrêter les additifs, arrêter l'élevage industriel qui martyrise les animaux et qui tue les gens, qui tue les animaux et qui tue les gens. Voilà, je suis un peu effarée que vous n'en avez pas parlé. Et ce que je voulais vous dire aussi, et je vous laisse, je vous remercie, c'est que vous avez parlé, Monsieur Berkoff, de l'Union européenne et.
Oui.
Est-ce que vous savez qu'il y a deux jours, j'ai vu cette vidéo-là, il y a récemment, des députés européens ont demandé à voir les contrats entre Pfizer et l'Union européenne. Les contrats étaient barrés de noir.
Oui, oui, absolument. On vient d'en parler, Clara. On vient d'en parler.
Excusez-moi, parce que j'ai pris en vue. Je suis effarée de voir ça. Les politiques sont aux mains des labos. C'est vraiment terrible ce qu'on vit en ce moment. C'est une dictature. Et je voudrais juste rappeler que moi, je suis soumise à l'obligation vaccinale et je ne veux pas. Je risque d'être clochardisée à cause de cette dictature sanitaire. Et je vous assure que j'en ai gros sur le cœur parce que jusqu'à présent, je pensais que mon corps était souverain. Mais apparemment, il ne l'est pas. Je ne suis pas souverain. Mon corps appartient à l'État. Je suis en Union soviétique. Je suis en Chine.
Non. Votre corps n'appartient pas encore à l'État, Clara. Écoutez, vous êtes heureusement, enfin, vous êtes en libre arbitre. Chacun décide de faire ce qu'il veut, de se faire vacciner ou pas. Le problème que vous posez, et je vous conseille vraiment d'ajouter aux deux livres que vous avez, dont vous avez parlé, le livre de Frédéric Bizard, parce que justement, il parle d'autonomie, il parle de solidarité. Et le problème le plus important aujourd'hui, je vais vous dire le plus important, c'est justement cette autonomie. Après, discutons de tout. On est bio, pas bio, etc. Ça, c'est un problème de discussion. Mais le plus important, c'est la clarté, la transparence et surtout, vous l'avez dit, et Frédéric Bizard, vous avez encore, Clara aussi en parle, la prévention. Soyons effectivement en bonne santé, en tout cas le plus possible.
Enfin, quand on risque de clochardiser les gens, on est soumis à l'obligation vaccinale. On ne peut pas dire le contraire.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, les pouvoirs changent aussi, hein. Les choses ne sont pas constantes, les choses bougent, les choses changent. Et voilà, rien n'est fait, rien n'est acquis. Rien.
J'espère, mais c'est très dur, c'est très dur.
Merci. Frédéric Bizard, non, peut-être on va prendre le prochain avant que... Frédéric Bizard, effectivement, n'entrons pas dans les choses, effectivement, médecine douce ou médecine apoléopathique, viande ou pas viande, etc. Je crois que chacun, justement, doit garder sa liberté de choix et c'est fondamental. Au fond, juste une question quand même, parlons à ça. Vous avez dit, c'est faisable en 100 jours, comme en 45, comme en 58. En fait, il faudrait, soyons extrêmement concrets, quoi ? C'est-à-dire, il faudrait qu'une Assemblée nationale, un Sénat et un gouvernement qui décident, voilà, on a un programme, en tout cas, restons sur la santé, hein. On a un programme, on l'applique. Et comment on peut l'appliquer ? Vous dites 100 jours suffisent.
Oui, 100 jours suffisent parce que dans le programme que l'on propose, donc qui est une refonte du modèle, vous avez plusieurs types de réformes qui peuvent se faire dans une ordonnance. Vous avez une réforme de la gouvernance, que fait l'État, que fait l'assurance maladie ?
Quels sont les périmètres ?
Qu'est-ce qu'on décentralise ? Qu'est-ce qu'on garde ? Bon, donc ça c'est une première réorganisation. Deuxièmement, qui finance quoi ? Comment est-ce qu'on sort de système à deux étages absolument absurde qui avec une assurance maladie en premier étage et des assureurs privés en deuxième étage. Ça, c'est un deuxième groupe. Un troisième groupe, c'est véritablement la réorganisation des acteurs. Qui fait quoi dans les territoires ? D'accord ? Comment ? C'est-à-dire qu'on sort de cette segmentation hôpital, EHPAD et ville. Tout le monde est dans un territoire. Vous passez d'une responsabilité individuelle à une responsabilité populationnelle. D'accord ? Tout le monde a... Donc, c'est ce qu'on fait dans les... Bref. Donc, moi, je pense que... et là, il faut regarder techniquement, juridiquement, combien d'ordonnances il faut. Bien sûr. Une fois qu'on est d'accord, et vous voyez que déjà, on a passé un peu plus d'une heure ensemble, vous voyez la réaction des auditeurs qui ont compris, qui ont fait. C'est pour ça qu'on parle de la seule réforme possible, parce qu'on a fait beaucoup de conférences de consensus. On sait que c'est ça qu'il faut faire, d'accord ? Donc, le politique, qu'il s'en empare et qu'il le fasse. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire tôt ? Parce que si vous laissez... C'est un très bon exemple, enfin, c'est une très bonne leçon, l'échec de la réforme des retraites. À la base, le système universel, il était assez accepté à gauche comme à droite. Le fait qu'on sorte de 40 systèmes de retraite à un seul, qu'on le rende plus égalitaire, etc. Bon. Et puis on a dit, mais on va mettre 2 ans, parce qu'on va réunir tout le monde, on va essayer de trouver les choses.
Oui, les débats,
et on a été sur des aspects techniques, d'accord, sur les pensions de reversion, qu'est-ce qu'on en fait. Et là, vous perdez tout le monde, il n'y a plus que la haute fonction publique qui pilote, et vous perdez le sens. Il faut donner du sens à cette réforme. Et une fois que vous avez cette discussion qui doit être discutée pas simplement par des gens de gauche, de droite, c'est une réforme qui doit se faire avec un consensus politique. Parce qu'encore une fois, ça repose sur une culture, sur un modèle républicain. Est-ce qu'on veut un modèle à l'anglaise ? Est-ce qu'on veut un modèle américain ? Non. On veut un modèle à la française. C'est 95% des Français. Et donc ça, vous le faites après. Je pense qu'on peut le faire par ordonnance. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait en 1945. Hein, le CNR a travaillé pendant 3 ans. Et puis derrière, les ordonnances
simplement
de 58.
Simplement, 1945 et 1958, il y avait un consensus politique très large autour d'un certain général. Aujourd'hui...
Je suis d'accord. Je suis d'accord que qui va prendre la hauteur ? Mais vous voyez qu'en fait, personne n'en parle parce qu'ils ont tous l'impression que de l'extrême gauche à l'extrême droite, qu'ils ont une solution propre à eux. Non, non, c'est une solution qui répond à des... on est dans un système de contraintes. Vous avez des défis à relever, on a vu la triple transition, vous avez une culture à respecter, et puis vous avez un système existant.
Alors Frédéric Bizarre, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous n'entrez pas en politique ? Pour défendre ça.
Écoutez, en tout cas, la seule raison pour laquelle je rentrerai en politique, c'est bien pour porter cette refonte. Et donc, pour le moment, chacun est dans son rôle, mais c'est sûr que ça serait la seule raison. Pour le moment, on essaye de faire le trait d'union. Vous voyez, je vais au-delà de mon rôle universitaire, j'essaie de faire trait d'union avec le...
Mais à un moment donné, il faut incarner.
Mais à un moment donné, il faudra peut-être incarner.
Bon, écoutez, à suivre.
Absolument, et à suivre, vous pouvez déjà vous précipiter en librairie pour ce livre aux éditions Michalon, l'autonomie solidaire en santé, la seule réforme possible. Et oui, le ton est péremptoire, mais c'est vrai, on en a parlé pendant 1h20, vous avez vu, le programme est prêt. Et tout de suite, Brigitte Lahaye, après André Bercoff.